Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, bienvenue dans cette nouvelle émission, la chichoumaille de résistance, ou comment se nourrir hors de la ville. Première émission qui va explorer, parmi les autres émissions, toutes les activités alimentaires sur notre territoire, juste à côté de chez nous. Pour l'animer, je ne serai pas seule puisque cette émission est réalisée en partenariat avec la Fondation Copernic. Et nous avons Dominique Paturel qui sera avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Ainsi que Benoît Daviron. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Donc je précise que vous êtes tous les deux anciens et anciennes chercheurs et chercheuses en sciences sociales sur des thématiques autour de l'alimentation, de l'agriculture, des relations international avec bien sûr l'alimentation qui va revenir souvent parce que c'est un peu le thème principal de cette émission. Aujourd'hui c'est la première, donc on vous propose déjà de vous présenter Dominique et Benoît, ensuite d'expliquer aussi les missions et les objectifs de la Fondation Copernic. Nous reviendrons ensuite sur les différents sujets qui vont être traités de cette émission et pourquoi son existence. Et enfin, on commencera avec quelques définitions pour être sûr d'avoir les mêmes termes qui vont être réutilisés tout au long des émissions suivantes. Alors, pour commencer, je vous propose de vous présenter un petit peu plus en détail, Dominique et Benoît. Donc, vous êtes anciens chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu pour commencer de votre... On va commencer par toi, Dominique, de ton passif de chercheuse.
Mon passif de chercheuse. Donc moi, j'étais dans une équipe de recherche qui est sur le campus de l'Agro à Montpellier. Donc un laboratoire qui s'appelle Innovatio. Et à l'intérieur de ce labo, j'ai travaillé dans une équipe qui s'appelle DAM, c'est-à-dire démocratie alimentaire dans les marchés. Et plus précisément, en ce qui me concerne, ça a été de regarder qu'est-ce qui se passe pour les familles à petit budget pour qu'elles puissent accéder, dans un premier temps, à la question des circuits courts, puisque mon équipe travaillait essentiellement là-dessus. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que dans ces nouveaux circuits courts, une grande partie de ces familles à petit budget était peu présente. Et donc, la question qui venait tout de suite derrière, c'est où s'approvisionne-t-elle et comment elles se débrouillent avec leur budget alimentation. Et ça, c'est des travaux qu'on a démarrés en 2008. Et donc, assez rapidement derrière, s'est posée la question, finalement, de l'aide alimentaire, parce qu'on s'est rendu compte qu'une grande partie de ces familles avec lesquelles on discutait avaient une partie de leur alimentation qui venait via cette filière. Donc, on a beaucoup travaillé sur la filière de l'aide alimentaire.
Alors, je vais faire un petit peu la voix de la, néophyte, un petit peu dans ce domaine. Mais Dominique et peut-être Benoît aussi, à quoi ressemble une journée de chercheur en sciences sociales?
Alors, tout dépend. Si tu veux, c'est très, très lié aux pratiques de recherche qu'on a. Est-ce qu'on est un chercheur ou une chercheuse qui travaillons plutôt sur des éléments macro? Tu vois, c'est-à-dire, par exemple, regarder qu'est-ce qui se passe à l'échelle internationale sur les politiques diverses et variées ou l'économie des systèmes alimentaires. Tu vois, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi une entrée comme celle que moi, j'ai pratiquée par la recherche-action. C'est en gros, qu'est-ce qui se passe pour les gens ordinaires. Voilà, en gros, c'est un peu comme ça. Donc ça veut dire... aller sur le terrain, discuter avec les gens, regarder comment ça se passe, et puis à partir de ça, construire avec eux, la plupart du temps, la question de recherche. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide de travailler ensemble, qu'est-ce que c'est qui fait problème pour ce terrain et cette population avec laquelle on bosse. Et ça, c'est un point de départ qui est extrêmement important, qui est rarement... élaborer finalement, parce que souvent les chercheurs, ils arrivent sur les terrains avec leurs questions à eux. Or, nous, ce qu'on a vraiment travaillé, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que c'est les préoccupations des gens, et donc ce temps de construction du problème avec eux est souvent très long. Et ça fait partie d'ailleurs des problèmes de fond de la recherche aujourd'hui, c'est-à-dire que ces temps-là sont rarement financés.
Ah oui, ok.
Répondre peut-être à la question.
Oui,
aussi.
Benoît, du coup, toi, tu étais plus sur des domaines de recherche au niveau international et politique.
Voilà, donc je vais me présenter avant de répondre à la question de comment se passaient mes journées de chercheur. Oui, donc mon domaine de compétence, c'est les échanges internationaux de produits agricoles, disons alimentaires et non alimentaires, sur lequel j'ai travaillé presque toute ma vie. En fait, j'ai commencé dans le milieu des ONG en m'intéressant surtout, enfin ce qu'était le boulot de cette ONG, aux effets de nos politiques agricoles, la politique européenne sur les agricultures des pays dits du Sud, des pays pauvres, des pays africains, et de quels étaient les effets négatifs éventuellement. Parce que c'est bien de vouloir aider ces pays-là, mais souvent, en fait, nos politiques ont des effets très nuisibles pour ces agricultures, et donc c'était ça le sujet. Et puis j'ai initialement beaucoup travaillé aussi sur les produits, disons, exotiques, café, cacao, caoutchouc, coton, ce genre de choses. Et progressivement, de plus en plus m'intéressant à l'histoire des échanges agricoles internationaux et au rôle en particulier des politiques et des États. Et on en reparlera au cours des émissions, mais l'impact des guerres, en fait, dans cette histoire des échanges internationaux de produits agricoles. Alors, sur comment se passaient mes journées, en fait, j'ai eu vraiment deux vies assez différentes comme chercheur. J'ai beaucoup été expert pendant tout un temps. Je travaillais au CIRAD, et le CIRAD, en fait, a longtemps été une annexe, on pourrait dire, du ministère de la Coopération français. Et donc, je travaillais comme expert, souvent, pour le ministère de la Coopération. Et puis, sur les dernières décennies, si on peut dire, j'ai de plus en plus fait un peu ce que je voulais. C'est souvent comme ça, comme font les chercheurs. Et j'ai beaucoup lu, en fait, et je trouve que c'est une chose que doivent faire les chercheurs, c'est lire, en fait, pour savoir ce que les autres ont fait avant eux. Beaucoup de chercheurs se plaignent aujourd'hui qu'ils n'ont pas le temps de lire, mais je trouve que c'est une catastrophe, parce qu'effectivement, lire, c'est essentiel dans notre affaire. Donc beaucoup lu et beaucoup tripoté des statistiques, en fait, parce qu'on peut beaucoup analyser tous les échanges internationaux avec des statistiques. Donc on est un peu sur deux pôles opposés, on pourrait dire, avec Dominique, des filières ou des systèmes alimentaires. Moi, je suis beaucoup plus sur l'international. Dominique, elle est plus près des consommateurs. Mais voilà, ça nous rend assez complémentaires pour notre émission.
Et du coup, à quel moment vous avez pu rencontrer et croiser vos domaines de recherche ?
On était dans la même unité, donc on s'est croisés quelques fois comme ça, et puis il se trouve qu'on est tous les deux dans le pays cœur d'Hérault. Et donc on s'est croisés aussi dans des milieux associatifs, on va dire, ce qui nous a amenés à cette émission.
Et comme dit Benoît, on a un point de vue qui est de places différentes. Et les échanges qu'on a pu avoir ensemble à certains moments donnés sont particulièrement riches. Et donc, du coup, c'était super intéressant de partir sur ce type d'émission ensemble.
Dominique, tu es également membre de la Fondation Copernic. Donc, est-ce que tu peux un peu nous détailler les objectifs de cette fondation ?
Oui, effectivement, je suis membre de la Fondation Copernic. Je fais partie du secrétariat. Et la Fondation Copernic, elle a un objectif, en gros, qui est d'analyser, d'informer et de faire des propositions. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que la Fondation Copernic, elle a un slogan qui est, en gros, mettre à l'endroit ce que le libéralisme met à l'envers. Donc, ça la situe bien. Et son objectif, c'est vraiment de participer au débat public, en essayant d'apporter un éclairage un peu différent sur les questions sociales et économiques. Les membres de la Fondation Copernic ont vraiment un engagement auprès de toutes les personnes qui sont dans les situations d'oppression ou d'exploitation. Ça, c'est vraiment le cœur de la réflexion. Et l'idée, c'est de partager les analyses, etc., de ce qu'on pourrait appeler les intellectuels, les experts, mais avec une vision organique, c'est-à-dire c'est comment ces savoirs-là peuvent être partagés et permettre aux femmes et aux hommes de ce pays de s'en saisir pour pouvoir transformer les situations dans lesquelles on est. Alors, l'autre point qui est important pour cette fondation, c'est qu'elle reste par principe hors jeu du jeu électoral. Voilà, il n'y a pas de participation directe à ces questions-là. Elle n'est pas dépendante d'un parti politique, pas dépendante d'un syndicat, pas dépendante d'une association. Et donc, elle cherche à travers ça, finalement, à croiser l'ensemble des personnes, y compris issues des syndicats, des associations et des partis, à se retrouver dans cet objectif que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est, bon, mettons à l'endroit ce que le libéralisme fait à l'envers. Et donc, la Fondation Copernic s'associe à cette série d'émissions.
D'accord. Et est-ce qu'en tant qu'habitant qui s'intéresse à ce sujet, on peut aller chercher, j'imagine, de la documentation ou des ressources sur le site internet de la Fondation Copernic, par exemple ?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce sujet-là a été très peu travaillé par la Fondation. Et donc, on va participer aussi, du coup, à amener une autre façon de poser les questions dans le cadre de la Fondation.
Très bien, merci pour la précision. Donc, vous habitez maintenant tous les deux sur le territoire. Et en habitant ici, qu'est-ce qui vous a amené, du coup, à réfléchir à ces thématiques-là? Et bien sûr, j'en viens après aux différents thèmes qui vont composer ces émissions. Mais quelle est votre analyse rapide, hein, bien sûr, parce qu'on va le détailler plus en détail plus tard, mais du territoire et de l'endroit où vous vivez maintenant?
Ben, merci. C'est vraiment, effectivement, ce qui nous a amené ici, c'est d'habiter. Ici, moi, j'habite au Quélard. J'habitais avant à Montpellier, j'ai longtemps habité à Montpellier. Et je découvre un peu ce qu'est la vie en milieu rural, comme on dit, avec ses particularités qui se veulent dire d'abord un monde de voiture. On vit avec la voiture, on est en voiture en permanence, en fait, dès qu'on veut quelque chose, dès qu'on veut un service ou un bien. Et la rareté des services, effectivement, offerts dans beaucoup de lieux de ce monde. Avec la particularité, c'est qu'on est à la fois trop près et trop loin de Montpellier, de cette métropole qui est Montpellier-Rennes. On est trop près dans le sens où on va avoir beaucoup d'activités qui seront concurrencées par la métropole et en fait qui vont disparaître, tout simplement, dans les endroits ruraux où on peut habiter. Et trop loin parce que, malgré tout, le Quélard, c'est une heure de Montpellier, disons. Donc, on n'a pas un accès facile à un certain nombre de services. On voit disparaître... on avait un médecin avant au Quélard, il n'y en a plus maintenant, depuis un an. Le Quélard a une particularité, c'est d'être un village étape, comme on dit, c'est-à-dire d'être au bord de l'autoroute et d'avoir, de ce point de vue-là, un certain nombre de magasins. Il y a un Spar, c'est pas de la publicité, il y a une boulangerie, donc il y a quand même... Mais parce qu'on est collé à l'autoroute, mais dès qu'on s'éloigne à 5 ou 10 km de l'autoroute, il n'y a plus rien du tout. Et donc c'est ça, c'est ce constat en fait, qui est un peu peut-être au départ de cette émission pour nous. Et puis pour moi aussi, l'intérêt vraiment grand de travailler d'un point de vue intellectuel à des problèmes et des situations qui sont là où je vis, alors que toute ma vie j'ai travaillé sur des situations lointaines en fait, où je n'étais pas personnellement impliqué en fait. Et ça me plaît de travailler sur une situation où je suis impliqué.
Très bien. Dominique, un peu la même question. Toi, tu es plus dans un peu plus au sud.
Oui, c'est ça. Voilà, moi, je suis un peu plus au sud. J'habite Saint-Jean-de-Fosse. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans ce village, déjà, la première surprise que j'ai eue, c'est le fait que tu n'as pas tellement de solutions pour t'approvisionner. Tu vois, il faut que tu... Comme ce que vient de dire Benoît, c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes ta voiture pour aller sur un marché sur lequel il y a beaucoup de choses. Alors, sur Saint-Jean-de-Fosse, il y a un tout petit marché, hein, donc qui est une bonne proposition pour l'instant, sauf qu'il a lieu le vendredi matin, donc ça ne peut avoir comme clientèle que les gens qui ne vont pas au travail le vendredi matin. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose qui m'a vraiment surprise... en tout cas que j'avais pas vécu à cette échelle-là, c'est le poids du tourisme, c'est-à-dire le surtourisme sur des villages comme ça, et du coup les conséquences économiques que ça a pour faire vivre la boulangerie ou l'épicerie du village ou les restaurants qui se sont installés, et dans une certaine mesure, si tu veux, l'énergie possible du village mis au service de ce surtourisme qui permet finalement à un certain nombre d'acteurs d'en vivre. Voilà. Et ça, c'est quand même, dans une certaine mesure, invisibiliser de façon maximum les retombées négatives, les externalités négatives sur une partie de la population du village. Voilà, ça, je trouve que c'est assez problématique, et en particulier sur les histoires d'accès à l'alimentation, parce que du coup, on va se retrouver avec une alimentation qui va être majoritairement issue des circuits longs, très peu des produits locaux, mais on peut le comprendre, hein, vu la nature de la clientèle qui est captée. Et du coup, pour moi qui suis engagée sur ces questions d'accès à l'alimentation depuis très très longtemps, dans une vision beaucoup plus universelle, hein, puisque le collectif de chercheurs et de chercheuses dans lequel j'étais, qui s'appelle Démocratie Alimentaire, on fait partie des membres fondateurs du collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, donc on a vraiment participé à cette aventure depuis le début. Et du coup, c'était un peu comme vient de le dire Benoît, c'est comment, à l'échelle du village où j'habite, ce projet de sécurité sociale de l'alimentation peut prendre vie, peut prendre sens, etc. Et pour l'instant, l'expérience que j'en ai fait, c'est que c'est vachement compliqué d'aborder des questions comme ça pour des villages qui sont effectivement des villages et en même temps complètement tournés vers la ville.
Alors, on va y revenir, bien sûr. Benoît, tu avais un petit
oui,
complément ?
Oui, un regret donc, par rapport
un
à ce
regret,
que j'ai dit.
Un regret, mince.
Non, un complément par rapport à ce que j'ai dit en donnant une image très négative de ce problème d'accès à l'alimentation en milieu rural. Il y a en même temps, effectivement, quand on y vit et à l'année, on découvre l'existence de tout un tas de réseaux et d'initiatives, malgré tout, qui essayent de vivre dans ces milieux-là, qui vont permettre d'avoir accès au moins ponctuellement sur ce nombre de produits, à des très bons produits, de gens qui essayent de produire, de transformer, souvent des jeunes, hein, qui vont s'investir dans des activités ou de boulangerie ou de maraîchage. On a, sur le Dev, on a deux boutiques de petits producteurs. Il y a au Kellar, pendant l'été, il y a un marché hebdomadaire qui a lieu, alors qui vit grâce au tourisme, hein, effectivement, mais qui fournit des produits qui viennent du coin. Donc, il y a malgré tout aussi à rendre compte de tout un tas d'initiatives qui sont vraiment intéressantes, dont il faut parler, et qui sont intéressantes.
Voilà. Oui, et tu fais bien de le noter, parce qu'évidemment que dans cette émission, on ne va pas que pointer les problématiques. Hein. L'idée, c'est vraiment de discuter de l'existant. Donc, il y a des choses meilleures que d'autres, qui fonctionnent mieux que d'autres. Enfin, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de l'émission. Je vous propose de faire une petite pause musicale, et on revient juste après pour parler un petit peu des différents sujets, justement, qu'il faut être traités dans ces émissions.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. J'aurais des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. J'aurais des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Et de retour dans notre émission La Chichoumeille de Résistance. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la chichoumeille, ben, il s'agit d'un plat. Peut-être qu'on en reparlera dans cette émission aussi pour donner plus de détails. Là, pour l'instant, je ne vais pas en dire trop, ça fait un petit peu mystérieux. Je garde ça pour plus tard. On est toujours avec Dominique et Benoît. Et donc, on va parler maintenant de termes qui vont être souvent utilisés dans ces émissions. Donc, petit point définition. Avec Dominique et Benoît, peut-être commencer par la différence, en tout cas la définition de, entre démocratie alimentaire et système alimentaire. Dominique, tu nous en as un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut définir de façon simple ce que sont ces deux termes ?
Alors, c'est pas tout à fait, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Système alimentaire, on reprend là une définition hein, qui a été élaborée par un professeur de l'école d'ingénieurs d'agronomie de Montpellier, qui s'appelle Louis Malassis. Enfin, voilà, donc, et la définition qu'il donnait du système alimentaire, c'était de dire de tout temps, les hommes, pour manger, avaient en gros quatre activités pour arriver à avoir de quoi mettre dans leur assiette. Une activité qui était celle de la production agricole, une autre activité qui est celle de la transformation des produits alimentaires, une autre activité qui était celle de la distribution, toutes les activités de commerce, etc. Et une quatrième activité qui est celle de la consommation. Et donc nous, quand on parle de système alimentaire, c'est ces quatre activités qu'on embarque avec nous, avec le fait que derrière ça, il y a bien évidemment des tas d'autres activités qu'on ne voit pas, comme par exemple la gestion des déchets ou la question de la logistique aussi, qui est extrêmement importante. Voilà. Donc, la définition du système alimentaire, elle est importante à prendre en compte pour éviter de résumer ou de résoudre la question uniquement à travers les besoins qui seraient nécessaires pour transformer la production agricole, ce qui est une évidence, voilà, ou bien de l'attraper souvent, soit par la qualité nutritionnelle des aliments ou par la question de la pauvreté autour de l'accès à l'alimentation. Et donc, il y a ces autres activités qui sont extrêmement importantes à prendre en compte. Et si je dis ça, c'est parce qu'on a développé depuis un quart de siècle un imaginaire, en acte hein, d'ailleurs, ce n'est pas juste des pensées ou des fantasmes, qui serait que, en gros, à travers les circuits courts, on résoudrait les problèmes d'accès à l'alimentation pour tout le monde. Circuit court, ça veut dire avoir autour de chez soi des producteurs et des productrices à qui on achèterait directement. Et ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, ça veut dire aussi que tout le monde se met à faire la cuisine. Voilà. Et on voit bien que c'est un imaginaire qui est quand même ancré très fortement dans les combats militants depuis un quart de siècle, qui est extrêmement important parce que ça a permis de porter toutes les initiatives qui existent aujourd'hui et en particulier le projet de sécurité sociale de l'alimentation, mais le réel n'est pas celui-là. Voilà, et pas celui-là. D'où l'intérêt de bien comprendre que quand on parle d'alimentation, ça ne se résout pas seulement aux produits alimentaires ou simplement à la production agricole. Voilà. Et la question de la démocratie alimentaire. Et la démocratie alimentaire, c'est un concept qui émerge à la fin des années 90 et qui fait partie de ce mouvement dont je viens de parler. C'est-à-dire, c'est une vision d'une démocratie portée plutôt par le mouvement des citoyens. Et en gros, le constat, c'est, aujourd'hui, les systèmes alimentaires, ils existent à l'échelle de la planète, avec un certain nombre de multinationales qui ont la main sur ces gros systèmes alimentaires, sur cette industrie agroalimentaire. Et que même face à ça, on est dans une situation où les États n'ont pratiquement plus la main, ne serait-ce que parce que derrière, il y a aussi tout un tas de lois, de législations, des accords de l'Organisation mondiale du commerce qui sont très présentes. Et donc, c'est se dire, c'est tellement, tellement gros, tellement immense, tellement loin de nous. Et nous, citoyens, reprenons la main sur nos systèmes alimentaires. Voilà. Et le fondement de la démocratie alimentaire, en tout cas tel que le concept a été construit et d'une part et d'autre part repris dans ce mouvement social autour de l'alimentation, il part de ça. Alors après, le concept a bien sûr un peu évolué aujourd'hui, mais on est quand même du côté d'une approche citoyenniste.
Et c'est là que tu as introduit aussi la thématique de bien commun, d'une alimentation accessible à tous, à toutes.
Oui, parce que du coup, ça veut dire derrière que si on prolonge ça dans les combats actuels, c'est-à-dire dans ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien que dans ce cadre-là, ça voudrait dire que les systèmes alimentaires sont des biens communs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, sont des biens communs? Ça veut dire que derrière, il y a une idée d'auto-organisation, d'auto-gouvernement de ces systèmes alimentaires. Donc ça veut bien dire quand même derrière l'idée de relocaliser un certain nombre de filières, tout en se préoccupant des autres qui sont ailleurs, plus loin que chez nous, dans d'autres pays, etc. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit bien que tout ça, ça s'emboîte dans une vision, en gros, des systèmes alimentaires comme bien commun à l'échelle de la planète.
Complément peut-être.
Bien sûr.
Non, sur système alimentaire. Tout d'abord, pour considérer que la notion de système alimentaire n'a de sens que parce qu'on ne produit pas ce qu'on mange, en fait, soi-même. Et que notre monde est caractérisé par une tendance qui est forte depuis quelques siècles maintenant, qui est la division du travail, en fait, et la spécialisation des individus sur des tâches particulières. Et que donc il y a division du travail dans le sens où je ne fais pas tout ce que je consomme, je ne produis pas tout ce que je consomme, et je dépends d'un certain nombre d'autres personnes pour produire les biens que je vais consommer. S'agissant de l'alimentation, il y a effectivement toute une chaîne d'opérateurs, d'acteurs, d'entreprises, petites et grandes, qui vont aller depuis le champ jusqu'au consommateur, avec des marchés entre ces différents acteurs. Donc les produits vont circuler à l'intérieur des entreprises et entre les entreprises via des marchés. Donc c'est toute cette cascade qui donne sens à l'idée de système alimentaire. À côté de ça, la notion a eu beaucoup de succès ces dernières années, et en particulier au niveau international. On a beaucoup parlé de système alimentaire durable, ça a été beaucoup agité dans les organisations internationales. Et derrière ce succès, moi j'y vois aussi l'ambition ou la tendance à ce que les consommateurs urbains finalement aient plus de poids dans la définition des politiques agricoles. En Europe, aux États-Unis, pendant des décennies, finalement, les politiques agricoles ont essentiellement été définies par les agriculteurs, pour les agriculteurs. Et encore aujourd'hui, vous pouvez entendre des agriculteurs dire le ministère de l'Agriculture, c'est notre ministère, c'est le ministère des agriculteurs. Et l'agriculture, c'est l'affaire des agriculteurs. Et en fait, il y a effectivement toute une tendance de fond qui vient plutôt du côté des urbains et de la consommation à dire ça nous intéresse ce qui se passe dans l'agriculture, on veut savoir ce qui se passe. Et là, la notion de système alimentaire aussi prend du sens puisqu'elle va s'intéresser à l'ensemble des étapes qui vont aller du champ jusqu'au consommateur, et on va vouloir avoir une influence finalement sur la façon dont se réalisent ces différentes étapes qui vont du champ jusqu'à l'assiette, en fait.
Donc tout ce que vous venez de nous donner là, ce sera la base des émissions qui vont suivre après cette première émission d'aujourd'hui. Alors il nous reste seulement quelques minutes, mais est-ce qu'on peut donner des sujets que vous allez traiter et discuter dans le cadre de cette émission?
Vas-y.
Allez, Dominique.
Alors, justement, on va attraper les choses par ces activités qu'on vient d'énoncer et qui font partie du système alimentaire. On va s'intéresser, par exemple, à l'artisanat de transformation, en particulier les boulangers. Voilà, on va s'intéresser à eux, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans les coins où on habite autour de cet artisanat. Et puis, on va aussi aller discuter avec certains et certaines de nos collègues chercheurs et chercheuses, en particulier sur les questions de nutrition, l'ensemble des injonctions paradoxales qu'on a aujourd'hui autour de l'alimentation. Enfin, si on écoute tout, on ne sait plus trop quoi manger. Voilà. Et puis, bien évidemment, à chaque fois, à chaque séance, on essaiera de faire un petit moment de synthèse pour voir en quoi ça nous permet d'éclairer le projet de sécurité sociale de l'alimentation.
Voilà. Et puis on reviendra par ailleurs sur l'histoire de toute cette affaire, de ce système alimentaire, comment on en est arrivé là, par quelle grande transformation, grand changement au cours de l'histoire et sous quelle influence on est arrivé à ce système alimentaire tel qu'on le vit aujourd'hui.
Dominique Paturel, Benoît Daviron, merci beaucoup pour cette première émission, la Chichoumaï de Résistance. On vous donne rendez-vous donc le mois prochain, même heure, même endroit, pour écouter la deuxième émission qui va s'attaquer donc à un sujet spécifique, un peu plus dans les détails. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
Merci à bientôt.
À bientôt.